Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Nelly Dali.
Vendredi 1er août 2025, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Les titres à la une. Pour une présidentielle apaisée, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a échangé hier jeudi avec les partis politiques autour des droits humains et de l'éthique électorale. On en saura plus avec Christelle Yesso. Le certificat de nationalité et le casier judiciaire désormais accessible en ligne sur la plateforme e-justice. Et à ce jour, plus de 160 000 actes ont été délivrés en Côte d'Ivoire. En Guinée, Conakry, de violentes pluies font au moins 7 morts, dont un haut responsable gouvernemental. Nous reviendrons en Côte d'Ivoire à Divo pour le dossier d'actualité où 10 000 cartes de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, seront distribuées bientôt. Et pour terminer cette édition, nous aurons l'invité de la rédaction, la directrice du civisme et de l'engagement citoyen au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Georgette Kouassi. Elle est reçue par Mata Touré pour parler de la 15e édition de la Semaine nationale du civisme qui démarre ce 1er août sur toute l'étendue du territoire national. On ouvre ce journal avec le dialogue en période électorale. À 2 mois de la présidentielle, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a réuni les partis politiques pour un atelier d'échange autour du respect des droits humains et de l'éthique en période électorale. Objectif, promouvoir un climat apaisé malgré les tensions actuelles. La rencontre a eu lieu hier jeudi au siège du CNDH à Cocody. Le compte-rendu de Christelle Yesso.
La première partie de cette activité a consisté à sensibiliser sur le respect des droits humains dans le processus électoral. Maître Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains, explique.
Tout le processus électoral est un processus fondé sur des règles. Il faut que les règles soient respectées et aussi il faut que les institutions soient respectées. Et donc, les autorités doivent avoir confiance aux institutions, les partis politiques doivent avoir confiance aux institutions, la population doit avoir confiance aux institutions et les institutions aussi doivent jouer leur rôle de régulation en respectant les tests.
Le second thème abordé était l'éthique en politique. Professeur Dion Simplice, vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, nous en montre l'importance.
L'éthique, c'est ce qui nous rappelle le bien et le mal. C'est ce qui nous rappelle que quand on fait la politique, on se met au service de la communauté. On ne peut pas servir la communauté si on ne fonde pas son action ou sa parole sur des principes éthiques. Les principes éthiques, c'est des principes de bonne gouvernance, de respect mutuel, de reconnaissance de la dignité de l'être humain.
Les deux notions ont été bien assimilées par les représentants des partis politiques qui promettent d'en faire un retour à leur base.
Hippolyte Crédit, secrétaire général adjoint du MGC. Et nous avons retenu que l'éthique doit gouverner notre action politique et nous devons par ailleurs respecter les droits de l'homme. C'est ce qui peut garantir un milieu politique dans lequel personne n'a son droit lésé. Nous allons rendre compte de cela à notre présidente, à notre parti.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche du CNDH pour prévenir les tensions à l'approche de la présidentielle.
On se rend dans la région du Béké qui se prépare à accueillir le 65e anniversaire de l'indépendance. En prélude donc aux festivités officielles, le directeur général de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, a visité le 23 juillet dernier des installations de l'aéroport de Boaké. Au terme de sa mission, le directeur de la Sodexam s'est félicité des travaux en cours. Jean-Louis Moulot, dont des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Béké.
Nous avons fait le tour de l'ensemble des infrastructures, regarder les questions qui pourraient demeurer en suspens, qui n'avaient pas trouvé de réponse et mettre en œuvre des mesures urgentes pour les derniers points en souffrance. Tout à fait, nous avons visité l'ensemble du domaine aéroportuaire en commençant par le parking passager. Nous avons visité l'aire de mouvement, l'aire de trafic. Nous avons visité le parking avion. Nous avons visité la piste en elle-même ainsi que les taxiways qui seront donc mis à contribution dans le cadre de l'ensemble des opérations pour cette grande fête. Eh bien, l'état des lieux est satisfaisant et les travaux et les diligences qui devaient être accomplis l'ont été. Il nous reste quelques finitions. rénovation, des travaux de rafraîchissement que nous avons réservés pour la toute fin, bien évidemment, afin que l'aéroport de Boaké offre le meilleur visage à nos visiteurs. Aucune inquiétude, tout est en ordre et les choses se dérouleront comme à l'accoutumée.
C'était le directeur de la SODENSAM, Jean-Louis Moulot, dans des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké. Sécurisation et digitalisation des actes de justice en Côte d'Ivoire. Plus de 160 000 actes de justice que sont le certificat de nationalité et le casier judiciaire ont déjà été délivrés par une douzaine de juridictions. L'information a été donnée hier jeudi à Radio de la Paix par le coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ogur Kadé Seounou.
Le projet a été lancé officiellement le 30 janvier 2025 à Dabou avec seulement le certificat de nationalité comme acte délivré. Et le 26 juin, c'était la connexion en fait 10 nouvelles juridictions à la plateforme et l'intégration du casier judiciaire comme acte de justice délivré par la plateforme. Donc aujourd'hui, nous avons sur la plateforme les juridictions de Yopougon, de Dabou qui étaient juridictions lancées en janvier. Mais nous avons relié les juridictions du Grand Abidjan, notamment à Beauville, à Boisseau, Tiassalé, à Bobo. Nous avons relié également Boaké, San Pedro, Korogo. Et donc, à ce stade, nous avons une douzaine de juridictions qui sont connectées et qui sont en mesure de délivrer le certificat de nationalité et le casier judiciaire directement via la plateforme e-justice.
En termes de casier judiciaire et certificat de nationalité déjà délivré, on peut les chiffrer à combien?
Il y a plus d'une semaine, nous avons dépassé la barre de 150 000 actes délivrés par la plateforme. À ce stade, nous sommes à 163 000 actes délivrés, parmi lesquels nous avons évidemment 20 000 casiers judiciaires et puis le reste, nous avons la différence en certificat de nationalité.
Vous écoutiez le coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, OGK Desseoulou. Il a été joint par Jean-Claude Mabéa. En télécommunication, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont signé récemment un protocole d'accord pour réduire les coûts de communication entre les deux pays. Cette initiative est perçue comme un pas décisif vers l'opérationnalisation de l'itinérance dans la zone CEDEAO. Concrètement, de quoi s'agit-il et avec quelles conséquences pour les citoyens des deux pays? Réponse avec Tal Noisseux, ingénieur IT et spécialiste des télécommunications.
C'est pour la première fois que les deux États membres de la CEDEAO vont pouvoir arriver à un accord qui consiste à réduire le coût des appels transfrontaliers, mais aussi le coût de l'itinérance.
Alors concrètement, quels effets aura la mise en œuvre de cet accord pour les citoyens de ces deux pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en matière de communication?
Le fait que le coût des communications soit réduit, eh bien, ça va faciliter les échanges entre les populations, d'une part, et aussi entre les entreprises. Donc du coup, ça va un petit peu forcément stimuler le commerce régional, notamment entre les deux pays. Donc il faut s'attendre à ce que du côté des consommateurs, il y ait une baisse visible des coûts d'appel transfrontaliers, ainsi que de l'itinérance. Il faut s'attendre également du côté des opérateurs à une augmentation du trafic international. Et donc, du coup, il va y avoir forcément un impact. On va y avoir un marché, n'est-ce pas, régional qui sera beaucoup dynamique. On aura le renforcement des liens économiques entre les deux pays, vraiment sera stimulé. Et surtout aussi la facilitation des services, hein, comme le télétravail, le commerce électronique et également la mobilité professionnelle.
À l'instant, Tal Noisseux, ingénieur IT et spécialiste des télécommunications, qui a été joint par Aoussi Pota. Hors de nos frontières, à Conakry, en Guinée, au moins 7 personnes ont perdu la vie, selon les autorités, suite à de violentes pluies dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet. Parmi les victimes figurent Ibrahima Khalil Keira, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Au total, plus de 1200 ménages ont été touchés depuis le début de la saison pluvieuse, selon l'Agence nationale de gestion des urgences. Face à cette tragédie, le gouvernement a exprimé sa profonde tristesse et appelé à la solidarité nationale. En sport AfroBasket 2025, le Sénégal glace la Côte d'Ivoire chez elle 66-60 et rejoint les demi-finales. Une première en 7 éditions du tournoi où un pays hôte ne se qualifie pas pour les demi-finales. On en sait plus avec César Yao qui a suivi cette rencontre de bout en bout au Palais des Sports de Trècheville pour le compte de Radio de la Paix.
Au terme d'une rencontre alléchante, les Lions ont retourné littéralement la Côte d'Ivoire et ainsi composté leur billet pour la demi-finale pour la 26e fois en 26 participations. Léna Timira, joueuse du Sénégal, nous en donne les raisons.
Alors le match, on l'a mal débuté, mais on est resté positif en fait. Et on a gardé la tête froide pour pouvoir gagner ce genre de match.
Voici la clé du match avec l'entraîneur Otis Hulley.
They are three. That was the key to the game. Our bench point.
La clé du match, c'est notre banc, parce que notre banc a scoré 22 points. Le banc ivoirien n'a scoré que 3 points.
À l'entame de la rencontre, la Côte d'Ivoire avait tout pour la victoire finale. Mais hélas, les confessions du coach Stéphane Leite.
Je pense qu'on aurait dû gagner ce match. C'est une erreur d'avoir perdu ce match. Dans le sport, parfois, il faut savoir ne pas se trouver d'excuses. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait tout pour gagner. On a laissé passer une victoire qui nous tendait les bras.
Et c'est pas faute d'avoir tout essayé. Les deux derniers cartes ont été douloureux, nous raconte Maria Flora Joyce.
Pour moi, on n'a pas baissé les bras. On était là présents dans le jeu et tout. C'est juste qu'on a pêché sur certaines actions. Au niveau de la défense, on était présents dans le match. L'équipe adverse nous a senti. On n'a pas baissé les bras à aucun moment. C'est juste que ça n'a pas marché pour nous.
Juste après, le Nigeria a dominé le Cameroun 83-47 et quelques heures auparavant, le Soudan du Sud a éliminé l'Ouganda 69-68. Le Mali a balayé le Mozambique 86-68. Le tableau des demi-finales prévoit samedi Mali-Soudan du Sud et Nigeria-Sénégal.
Nous arrivons à notre dossier d'actualité consacré à la CNAM, à la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour ce faire, on se rend à Divo, où un centre a déjà produit près de 10 000 cartes d'assurés. Selon le chef de ce centre, Digbe Flavien, ces cartes sont prêtes pour la distribution aux requérants des localités du Lodjiboa. Plus de précisions dans ce dossier d'actualité signé Abel César Cassin, notre correspondant régional.
Quand nous arrivons ce jour-là, au centre de production de la CNAM, la couverture nationale d'assurance maladie, de nombreux requérants, fiches de renseignements à la main, attendent leur tour d'enrôlement sous des bâches installées dans la cour. Arrivée une heure plus tôt, cette mère de famille est toute heureuse d'avoir reçu rapidement sa carte.
Je suis venue faire 4 décennies pour moi-même.
Quand vous êtes venu, comment les gens vous ont reçu?
Ils ont bien fait. C'est maintenant que j'ai reçu ça.
Voici un autre témoignage. Celui de Rabé Drogba Germain.
Contrairement à ceux de l'ONESI qui retardent un peu, mais eux, ils sont très, très efficaces. Donc, je voulais leur dire merci. Grand merci au chef de centre pour l'accueil. Je suis arrivé à 8h. Je peux dire à 9h30, j'ai reçu ma carte.
Le chef de ce centre, Digbe Flavien, aide les agents à distribuer les fiches, à installer et renseigner les visiteurs. Il nous montre la salle de production des cartes où des imprimantes spéciales reliées au matériel informatique d'enrôlement lâchent une carte toutes les 10 secondes. Digbe Flavien.
Depuis juillet 2024, le site est opérationnel. Donc vous pouvez y passer pour faire l'enrôlement et avoir votre carte sur place. Ou bien si vous avez déjà fait l'enrôlement il y a quelques années, vous pouvez y venir pour la production de votre carte sur place.
Digbe Flavien nous fait l'état des lieux des cartes disponibles.
Nous sommes en moyenne autour de 250 à 300 requérants par jour. À l'ouverture, c'était timide, mais là, il y a une nette progression depuis la prise de la mesure dérogatoire qui permet à toute personne possédant la carte CEMU n'ayant pas cotisé de bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Nous avons en stock autour de 10 000 cartes produites qui sont là. Ce sont les cartes des sous-préfectures, des autres départements de la région. Généralement, ces cartes sont récupérées par nos collaborateurs qui sont dans ces zones-là. Les collaborateurs viennent récupérer les cartes par lot pour éviter qu'il y ait des pertes de cartes en fait.
Distributeur de cartes assurées de la sous-préfecture de Lozoua, Kambou Sansan s'apprêtait à retourner à son poste.
Je dois partir avec plus de 200 cartes. Bon, pour le retrait, le patron nous a dit ici qu'on ne paye pas de l'argent pour retirer la carte. C'est gratuit, voilà, on ne retire pas avec de l'argent.
À noter qu'un guichet de distribution de bons de la couverture maladie universelle est ouvert au sein de l'hôpital de Divo. Divo, Abel, César Cassin, Radio de la Paix.
C'était le dossier d'actualité consacré à la CNAM, proposé par Abel César Cassin. place à notre invitée de la rédaction qui n'est autre que la directrice du civisme et de l'engagement citoyen au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Georgette Kouassi. Elle se prononce sur la 15e édition de la Semaine nationale du civisme qui démarre ce 1er août sur toute l'étendue du territoire national. Cet événement majeur s'inscrit dans les festivités du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle s'entretient avec Mata Touré. Madame Georgette Kouassi, bonjour.
Bonjour Madame Touré.
Nous sommes ensemble pour parler de cette grande activité que vous allez piloter, à savoir la 15e édition de la Semaine nationale du civisme, sous le thème « Agissons ensemble pour préserver la paix et la cohésion sociale ». Alors, pourquoi une Semaine nationale du civisme et surtout pourquoi ce thème ?
Une Semaine nationale du civisme parce que pour nous c'est très important de pouvoir rappeler la notion de citoyenneté. Souvent on se dit on est citoyen d'un pays, mais de manière concrète, comment est-ce qu'on agit en tant que citoyen? Qui est le citoyen? C'est vrai que le citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Mmh. Et donc, pour nous, c'était une opportunité de pouvoir promouvoir les valeurs essentielles de la citoyenneté et à travers des formations, des actions et par-delà, promouvoir la paix et la cohésion sociale.
Alors, vous avez choisi pour cela la région du Gbeke, qui sera sous les feux de la rampe cette semaine-là, puisqu'elle va accueillir les festivités marquant la fête de l'indépendance. Alors, concrètement, est-ce que c'était un hasard de calendrier? Est-ce que vous avez voulu fondre les deux symboles? En tout cas.
Nous avons voulu profiter des festivités de l'indépendance, en fait, c'est d'une pierre deux coups. Puisque pendant les festivités de l'indépendance, nous intervenons aussi lors de la marche au flambeau. Et donc, on s'est dit, compte tenu du fait que tous les regards sont fixés sur le Gbeke, nous prenons le temps de pouvoir informer, sensibiliser les populations pour qu'elles puissent donner véritablement le meilleur d'elles-mêmes en termes d'action, en leur manière d'agir, de recevoir. Et donc, cela aussi passe par la culture civique. Mais ce n'est pas uniquement Gbeke, hein. En fait, la région du Gbeke et même toutes les régions, en fait, toutes les régions et les départements de Côte d'Ivoire, parce que, heureusement, nous avons des directeurs régionaux et départementaux dans chaque région et département de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est tous ces directeurs-là qui vont mettre en action et en prendre les actions et les activités en fait, que nous avons prévues dans le cadre de la Semaine nationale du civisme.
Alors, vous avez évoqué ce que vous avez appelé une marche au flambeau. Est-ce que vous avez d'autres activités marquantes qui vont inclure les populations, en tout cas de façon participative à votre événement?
Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. D'abord, des actions citoyennes. C'est des actions en fait, de salubrité, des actions de sensibilisation à la sécurité routière. Il faut dire que en fait, ces actions-là sont mises en commun avec le ministère des Transports, puisque aussi c'est la semaine en fait, nationale de la sécurité routière et le ministère de l'Environnement, en fait, puisque c'est la semaine nationale de la salubrité. Et donc, avec les jeunes que nous mettons à disposition, les bénévoles que nous mettons à disposition, nous allons mener des actions citoyennes. Nous allons aussi faire du renforcement des capacités en matière de culture civique, renforcer les capacités des femmes, des fonctionnaires, agents de l'État, des artisans, des organisations de jeunesse, pour mieux cerner en fait, la notion des citoyens. Nous allons, au niveau du district d'Abidjan et dans la région du Gbeke et dans toutes les régions, organiser aussi la cérémonie d'honneur à l'emblème national sur une thématique bien précise, l'emblème national, son histoire, le sens et les valeurs véhiculées par le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et puis enfin, pour certaines administrations, on va pouvoir aussi mettre à disposition le drapeau, c'est l'emblème national, pour véritablement habiller chaque administration pour qu'elle puisse refléter véritablement les 65 années d'indépendance de notre pays.
Alors, bien sûr, on pense tout de suite, quand on parle du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, dont vous êtes partie prenante, au-delà de la jeunesse, à vous entendre, les forces de sécurité de défense, les autorités administratives, peut-être même des guides religieux vont être impliqués dans cela.
Bien sûr. La marche au flambeau, par exemple, c'est vrai, c'est une marche avec toute la population, toutes les entités de la population, forces de défense et de sécurité, autorités religieuses, traditionnelles, bien sûr, les jeunes, ils seront très nombreux, mais surtout les femmes aussi. Vous savez que les femmes, elles adorent bien cela, en fait, c'est-à-dire promouvoir la paix, la cohésion sociale.
Absolument.
Donc, en fait, c'est un mouvement d'union, d'unité qui va être fait à travers cette marche au flambeau. Et c'est toutes les populations qui sont concernées. En termes de renforcement des capacités, nous serons à Botro, nous serons à Sakatou, à Béoumi. C'est toute la France de la population qui est conviée, en tout cas, à ces différentes formations.
Mais donc, on va se quitter avec l'appel que vous vous apprêtez à lancer aux populations, qui est?
On a choisi la thématique « Agissons ensemble pour préserver la paix et la cohésion sociale ». Nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays-là, en principe, comme le dirait Victor Hugo, c'est une terre sainte. Nous devons véritablement promouvoir cette terre sainte. ça à travers des actes d'embellissement, de protection, de préservation. Et donc, chaque citoyen est invité évidemment à concourir, à agir, afin de préserver la paix et la cohésion sociale.
Madame Georgette Kouassi, je vous remercie infiniment.
C'est nous qui vous disons véritablement merci pour votre entière disponibilité auprès du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Merci infiniment à vous.
Cette articulation referme ce journal, le rappel des titres. Pour une présidentielle apaisée, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a échangé hier jeudi avec les partis politiques autour des droits humains et de l'éthique électorale. Le certificat de nationalité, le casier judiciaire, désormais accessible en ligne sur la plateforme e-justice. Et à ce jour, plus de 160 000 cartes ont été délivrées en Côte d'Ivoire. En Guinée, à Conakry, de violentes pluies font au moins 7 morts, dont un haut responsable gouvernemental. Dans le dossier d'actualité à Divo, 10 000 cartes de la CNAM à la Caisse nationale d'assurance maladie seront bientôt distribuées. Une invitée de la rédaction était la directrice du civisme et de l'engagement citoyen au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Georgette Kouassi. Elle répondait aux questions de Mata Touré sur la 15e édition de la Semaine nationale du civisme qui démarre ce 1er août sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la revue de presse des journaux avec Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous, la revue de presse du jour.